C'est là qu'on doit commencer à écrire.
C'est plus le moment de réviser, là.
C'est bon, je suis prêt.
Allez, roule, boum.
Donc, je dis quoi, en fait?
Hein?
Le Mans Sonore Radio, du 4 au 8 décembre, de 17h à 17h30. Eh ben, attends! Parce que 17h30, de 17h à 17h30, ça fait qu'en fait, on n'a qu'une demi-heure pour tout visiter. Sur Radio Alpa, 107.3 FM.
Le Mans Sonore.
Salut les loulous, c'est votre présentateur préféré.
C'est Antoine.
Hein?
C'est moi la technique ou c'est Antoine?
Bah, comme tout le temps, mais je sais pas où ce qu'il fait.
Aujourd'hui, comme hier, on va parler de la biennale, mais totalement différent. Eh ouais, j'ai des revendications, les mecs. Eh ouais, ça va saigner, hein. Parce que eux, ils savent pas là-haut ce que j'ai à leur dire. Hein. Ils savent pas, hein. Ils se rendent pas compte que moi, je peux dire plein de trucs, là. Tout de suite, là ils sont sur leur petit derrière, là, sur.
Voilà. Trop naturel. Et en fait, on a grandi naturel en enregistrant nos séances de travail, quoi. Et en fait, je les utilise dans le montage.
Ah mais tu dis en shit, t'as dû faire hyper long en montage.
Oh ça va encore, puis c'est marrant à écouter en vrai.
Ah ouais.
Donc c'est chouette.
Et puis ça nous permet de fournir à peu près 5 minutes de contenu par jour.
Ouais. Argent, Magouille et compagnie, je vous raconte tout sur la biennale. Hein. Parce que moi j'ai le bras long, moi je connais Stevie Boulet, moi. Faites attention, hein. Je connais Stevie Boulet. Hein, faites gaffe, hein, parce que en plus, hein, on n'en parle pas de l'argent. Mais moi j'étais censuré, moi. Moi j'étais censuré pour une raison d'argent, moi. Hein, mon reportage d'investigation.
Bon, on veut que tu sois notre énergie un peu chaotique.
Oui. Est-ce que tu penses que tu peux le faire, ça?
Ouais.
Énergie chaotique. Tu peux faire ce que tu veux.
Le principe, c'est d'intégrer une personnalité pour pas que l'émission soit complètement morne.
Leçon autrement. Bah, moi, je peux vous en donner une leçon, moi. Une leçon d'éthique, va. Le Mans off course, là. Le Mans off course, hein. Off course des entourloupes. Hein, des entourloupes. Moi, je vais me plaindre à la mairie. Hein. Puis ils savent très bien.
Ah ouais, il y a ce côté un petit peu théorie des complots.
Bah. Il s'est fait censurer pour de vrai, quand même.
Hein?
Il s'est fait censurer pour de vrai.
Ouais, c'est vrai que c'est pas que une théorie. Le mec s'est vraiment fait censurer.
C'est pas grave.
Mais alors...
Prochaine émission radio.
Mais on peut pas parler...
De quoi il a été censuré.
Non, mais ça, c'est doublement plus intéressant.
Ouais, c'est ça.
Non, parce que moi, je les ai vus à l'MJC Jacques Prévert, là, hein. Ils se réunissent dans les caves, là, les vieux barbus, là, pour faire de la noise. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se touchent les boutons, hein. Hein, ouais, ils se touchent les boutons pour se rappeler leur adolescence, hein. Ouais, vous croyez que j'ai pas vu ça, hein. Et monsieur le maire, il appelle ça de l'art. Bah oui, il appelle ça de l'art. Mais moi, je vais vous dire ce que c'est, l'art. C'est l'art des entourloupes. Ouais, oui, attention, hein. Parce que moi, j'ai les papiers, hein, qui disent les détournements de fonds, hein. Hein, et puis les municipales, c'est bientôt, monsieur le maire, hein. Hein, c'est bientôt, ouais, c'est hein, cool, on va avoir des ennuis.
On va finir chacune de tes phrases par un fail. C'est bien si tu commences sur le script, et en fait après tu te laisses emporter.
Ah ouais, on fait ça.
On te laisse emporter à chaque fois.
Et à chaque fois on fait ça.
Et puis on remet mon truc par-dessus, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Comme le mec s'est fait censurer, on veut pas trop qu'il parle.
Vous coupez les financements pour mes études d'investigation, mais par contre, pour faire tut-tut sur les Jacobins avec des grosses bagnoles, bah là, par contre, il y a du monde. Hein. Je vais vous foutre Élise Lucet au cul, vous allez rien comprendre.
J'aime vraiment beaucoup. On la garde.
Oui, parce que, ok, je peux le dire. Alors, je vais vous dire tout de suite ce qui va pas, pourquoi on m'a censuré. Je vais le dire. Monsieur le directeur, ça va? Ah oui, mais mon stage, mais se passe très bien. Non, mais je te vais juste simplement vous remercier parce que franchement, ce service civique, mais c'est la chance de ma vie. Franchement, l'émission. Oui, l'émission. J'allais commencer.
Vous avez jamais eu de problème quand vous vous enregistrez comme ça et que vous dites de la merde et qu'il y a des profs qui écoutent après?
Bah personne ne réécoute, c'est mieux. Je suis le maître de ma propre destinée.
Ah ouais, parce que moi j'ai déjà eu des problèmes, j'avais dit de la merde.
Parce que toi visiblement en fait on te censure. En mettant le marqueur, j'ai cliqué sur play, donc on l'a fait.
Ce soir au Palais des Congrès, il y a un concert gratuit à 20h30. C'est le GRM qui nous propose une soirée à Kousma. Avec un concert de haut-parleurs, ou plus communément Acousmonium. Et donc, tout de suite, on retrouve une petite interview de Cassel Jaeger.
Donc, on a vu que vous avez carrément ramené tout le système d'Acousmonium. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce système de diffusion?
L'Acousmonium, c'est
un orchestre de haut-parleurs qui a été conçu en 1974 par François Bell, sous le nom Acousmonium en tout cas, et qui depuis n'a pas cessé d'évoluer avec une modernisation des haut-parleurs, des systèmes, un changement aussi d'implantation spatiale, petit à petit, hein, au cours de l'histoire, parce que... Et donc, en fait, il est destiné... À quoi il sert, cet orchestre de haut-parleurs? Il est destiné à jouer en concert la musique électroacoustique, donc une musique qui est sur support, qui existe qu'à l'époque, c'était des bandes magnétiques, aujourd'hui, c'est des fichiers informatiques, et qui existe que sous forme de fichiers. Et le concert, c'est justement l'enjeu de déployer dans l'espace et avec tout un jeu de choix et de stratégies de diffusion, de déployer dans l'espace la musique à travers tous ces haut-parleurs.
En quoi c'est différent en fait, d'approcher une performance sur un acousmonium d'un système en stéréo, par exemple ?
Un système stéréo, ça va être un système qu'on va considérer comme holophonique, qui va simuler un espace stéréophonique, donc, à l'aide de deux sources, et qui va concentrer tout cet espace stéréophonique vers un point central qui est l'écoute l'auditeur idéal. La stratégie de l'acousmonium, c'est quelque chose qui est diamétralement opposé. C'est créer, en fait... un environnement sonore qui va être intéressant pour tous les auditeurs et qui va aussi travailler pas que sur un plan frontal parce que la stéréo bicanale c'est que frontal, qui va travailler dans tout l'espace de la salle et aussi qui va jouer à la manière, on va dire, d'un orchestre traditionnel, qui va jouer sur les couleurs et les qualités des haut-parleurs.
Tu as intégré donc le GRM en 2007 et aujourd'hui tu en es le directeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ?
Oui, mon parcours est à la fois banal et un peu singulier. Moi, j'ai un double cursus. J'ai fait une école d'ingénieur du son. J'ai aussi fait un master d'esthétique. Donc, en fait, je fais un doctorat en sciences de l'art. Donc, en fait, je manipulais un peu toutes ces... on va dire tout l'arc du son depuis vraiment la réalisation technique et la connaissance technique et physique du son, jusqu'à vraiment une approche plus philosophique. Et donc le GRM, j'ai commencé à le fréquenter en 2003 en tant qu'intermittent pour aider pour les concerts. J'ai rejoint en 2007 à plein temps. Et bien ensuite, par ailleurs, j'avais une carrière d'artiste et de compositeur, on va dire en dehors simplement de la stricte structure du GRM. Et petit à petit, tout s'est un petit peu fondu en prenant d'abord la responsabilité de la programmation artistique de la saison de concerts. Puis après la direction, quand Daniel Terugi, mon prédécesseur, est parti à la retraite.
Donc tu as un univers sonore vachement teinté noise, drone, avec pas mal de longues trames, des ambiances bien travaillées. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as prévu ici ?
Alors ici, j'ai prévu quelque chose qui est un petit peu inhabituel pour moi, parce qu'en fait, quand j'ai à disposition un outil comme l'acousmonium, j'ai fait des pièces acousmatiques.
D'accord.
Mais on m'a demandé de faire un live. Donc là, je prépare plus le live comme je l'appréhende quand je joue dans des salles qui offrent par exemple que des stéréophonies ou ce genre de choses. Et donc là, c'est un live que je tourne depuis pas mal de temps, basé sur un synthétiseur modulaire. D'habitude, je travaille aussi avec la guitare, mais là, vu que le set est assez court, c'est vraiment que sur un synthétiseur modulaire. Et j'aurai un collègue du GRM à la console qui s'occupera de diffuser dans l'espace, en live, la musique. Donc voilà.
Donc toi, tu as toute la partie composition et les trajectoires sont faites en direct.
Et donc on a toujours, qui sont aux manettes de l'acousmonium, sont des musiciens. Et donc ça sera aussi le cas pour Okyong Lee ou pour Philippe Jack. Ils s'occuperont de produire la musique et les personnes à la console seront là pour transfigurer un petit peu cette musique avec l'outil qu'est l'acousmonium.
Okay.
C'est toujours un travail de duo entre vraiment le musicien et... le musicien metteur en espace, on va dire, qui est à la console.
Dans ton processus de création sonore, est-ce que tu as des habitudes de composition ?
C'est un travail de va-et-vient, mais oui, c'est quand même... Moi, j'ai une démarche... Ça dépend, ça dépend si je suis en solo ou si j'en ai une collaboration, c'est quand même pas du tout la même chose. J'imagine que... Enfin, on peut dire qu'à chaque collaboration, il y a une méthode de travail qui s'invente. Mais en solo, c'est une méthode assez classique où, en fait, je pars de captation de matériaux sonores avec des enregistreurs, différentes techniques d'enregistrement, le micro, le capteur électromagnétique, là, je viens de récupérer un géophone, enfin... Voilà, ouais. C'est vraiment d'étendre la palette maximum. Ensuite, il y a beaucoup de travail de sélection, de traitement, sur des traitements que je me suis fabriqué ou qu'on m'a fabriqué avec des programmes comme Max, comme Pure Data, oui. Des choses qui répondent aux demandes que j'avais, qui sont finalement des traitements assez simples, qui sont basés sur les lectures, mais qui sont faits dans une approche que j'ai développée dans ma façon de travailler. J'ai commencé par bricoler des patchs pour répondre à une demande. Je ne suis pas un excellent codeur, donc ensuite il y a des gens qui m'ont fait des trucs qui étaient un peu plus... Enfin, qui faisaient la même chose, mais qui ne plantaient pas. Ouais. Et après, c'est voir comment ces sons se marient, commencer à les assembler les uns les autres, commencer à voir ce qu'ils racontent par eux-mêmes. Et souvent, il y a un travail d'aller-retour où je recommence à régénérer des matériaux pour partir. J'ai un travail qui est très polyphonique, donc j'ai souvent beaucoup, beaucoup de sons qui sont accumulés, même si on n'a pas l'impression. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en même temps et qui résonnent. Et donc ça se passe vraiment par un jeu de ping-pong entre les matières que j'ai validées, que j'ai déjà posées, et puis celles qui me manquent, quelque chose ça me donne une idée sur un son rêvé ou quelque chose. Et ensuite, il y a tout un travail de raréfaction. J'ai des choses qui sont très denses et après je commence à creuser dedans. Et puis après, il y a vraiment aussi tout un travail, ça c'est mon passé d'ingé son, tout un travail vraiment de mixage, de travail sur les équalisations, des choses qu'on n'apprend pas forcément en classe d'électroacoustique, mais qu'on apprend en école d'ingé son, c'est qu'un son qui sonne bien et un autre son qui sonne bien, ça ne fait pas deux sons qui sonnent bien forcément. Il faut peut-être creuser un son sur une fréquence, quitte à ce qu'il soit un petit peu maigrichon, mais en fait, avec l'autre, ils vont se rencontrer, ils vont résonner et on va avoir un équilibre. Enfin voilà, ce genre de travail sur la dynamique, enfin tout ça.
Ok.
Et puis après c'est encore une autre stratégie si c'est une pièce pour l'acousmonium ou pour le concert,
oui.
Ou si c'est une pièce pour le disque. Là il y a encore d'autres choses.
Donc il y a un gros travail de prise de son. Pour la base de la matière sonore, en fait, généralement.
Ouais, en fait, ça m'est arrivé quelquefois de vraiment avoir une pièce en tête et d'aller prendre des sons pour la pièce que j'avais en tête.
Tu réutilises jamais la même matière, en fait. Tu pars toujours de quelque chose de nouveau.
Très rarement.
D'accord.
Très rarement. En tout cas, jamais le même son, parce qu'ensuite la matière, elle peut être traitée et transformée différemment.
Ouais. D'accord.
Et jamais le même son à une ou deux exceptions près. Il y a un son que j'aime bien reprendre.
Ouais, les petits sons favoris. Hein.
J'aime bien reprendre tout le temps, qui est très reconnaissable, mais qui voilà, parce que ouais, bon, j'ai pas non plus trop de problèmes. Hein. Quelqu'un qui joue du piano, moi, il joue du piano, c'est toujours différent, mais la note de piano, si on l'isole, est toujours la même. Hein. Enfin, c'est à quelques nuances près. Et en fait, je trouve ça aussi intéressant de revisiter. Faut pas que ça soit quelque chose. Faut pas que ça soit un travail. Faut pas que ce soit une facilité.
Donc pour toi, en quoi la tension est importante dans une pièce ?
Il y a différents types de tension. Il y a une tension qui est garder une oreille tendue, garder l'oreille de l'auditeur tendue. C'est-à-dire une tension narrative, on va dire quasiment, ou une tension de composition qui est simplement d'exposer les éléments et gérer la temporalité, savoir décider. Si vous écoutez des pièces comme certaines œuvres de Pierre-Henri, par exemple, et le génie de Pierre-Henri, c'est de savoir quand ça commence et quand ça s'arrête. C'est le geste fondateur de la composition, c'est savoir quand est-ce qu'on l'expose, quand c'est qu'on le retient. Et donc la tension, dans le sens où on va garder un intérêt et une oreille tendue chez l'auditeur, c'est savoir comment tu exposes, savoir comment tu arrêtes, savoir vraiment une conscience du temps qui se passe pour l'auditeur. Et il y a certains musiciens qui sont trop dans leur jeu, et qui du coup oublie qu'il y a quelqu'un qui va écouter.
Ouais.
Et donc des fois, c'est ça qui peut générer de l'ennui. Si on est toujours dans un acte d'être son propre auditeur, eh ben on arrive toujours à créer, à relancer l'intérêt. C'est un peu aussi le grand génie d'Eliane Radigue. Quand on écoute ses pièces, on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, il se passe toujours quelque chose. Et si on est vraiment bien concentré ou bien disposé à écouter son œuvre et à partir dans le temps se rétrécit, parce qu'en fait, on est toujours dans une attention, il y a toujours quelque chose qui s'expose, quelque chose qui se modifie, et on est toujours dans une investigation de l'écoute. Et ça, c'est parce que Eliane, elle est sa propre auditrice. Elle se met toujours à écouter ce qu'elle a fait, à écouter ce qu'elle a fait pour voir si ça tient. Donc ça, c'est le premier degré de la tension. Je ne sais pas si c'était ta question. Sinon, la tension d'un point de vue vraiment nerveux, la nervosité musicale, je ne sais pas si c'était plus dans ce sens-là.
Non, c'était plus dans le sens narratif.
Bah alors, on va le garder.
Super.
L'autre sens, on s'en fout. Alors.
Mercredi, j'ai eu la chance de rencontrer Eric Herbin lors de l'ouverture de son exposition « Other Side Break », qu'il a co-réalisé avec Cléa Coutsi et qui était à l'Hôtel de Ville du Mans.
Donc je vous propose tout de suite une interview.
Alors je suis dans l'hôtel de ville pour vous présenter l'installation Otherside Break, une installation de Cléa Coutsi et Eric Herbin. Donc Eric Herbin qui est avec moi en ce moment même. Donc bonjour.
Bonjour.
Donc est-ce que vous pouvez nous présenter quelle est la particularité de cette installation ?
Alors, cette installation est composée de plusieurs centaines de disques vinyles, tous issus de ma collection personnelle. Et il y a deux petites vannes Volkswagen qui sont équipées d'un saphir et d'un haut-parleur qui roulent sur cette piste et qui diffusent le son des disques vinyles.
Et sur les vinyles, en fait, c'est des vinyles de styles différents ?
Alors, il y a tous les styles sur cette piste. Tous les demi-disques sont des skip-proof, des disques de scratch pour les DJ. Et tous les petits quarts, ça peut aller de AC/DC à Ann Cordy, à Elton John, à NTM. C'est vraiment large.
Cette installation, il vous a fallu combien de temps de...
Alors, pour ce circuit de 13 mètres carrés, j'ai eu 2 jours de collage.
D'accord. Et donc c'est du... Oui, on m'a dit que c'était du double face qui avait été mis.
Ouais, c'est du double face.
Donc vous pouvez voir ça du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Et ça se passe dans l'hôtel du Ville du Mans. Donc à vous les studios, à vous Radio Alpa.
Merci.
Merci beaucoup.
Gabriel et Léo Lou sont partis en repérage autour de l'université en vue du campus sonore qui commencera aujourd'hui et se terminera ce dimanche. Ils ont d'ailleurs recueilli quelques propos.
Je m'appelle Jean-Michel Genevaux, je suis enseignant à l'ENSIM et à l'UFR Sciences. Je suis mécanicien de formation, donc je vais m'occuper de vibrations, d'acoustique, mais plutôt dans les solides, pas tellement dans les fluides. Et donc, pour l'opération Le Mans Sonore, il y a eu tout un travail préparatoire qui a été fait par tous les collègues. Et à l'occasion de cette présentation au grand public, de présenter les vidéos, les explications de pourquoi une goutte fait du bruit, je trouve essentiel d'ouvrir au public tout ce qu'on fait, de l'adapter pour que ça soit compréhensible et pas qu'on soit dans nos hautes sphères d'équations et de... voilà. Parce que nous vivons grâce aux impôts des gens, vive les impôts.
Cette démonstration, elle sera présentée à l'UFR Sciences dans la chambre semi-électronique du CNRS.
Exactement. On a deux manips qui vont être positionnées. Là, c'est le bruit émis par des poissons et puis le bruit des gouttes. Les deux sont dans la même. Donc il y a des, elles ont des vidéos qui permettent d'être explicites l'une après l'autre sans que on ait besoin d'être présent.
Et d'après vous, l'acoustique vis-à-vis des gens? La médiatisation, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de positif cette biennale?
Alors, ça représente de l'argent, ça représente du temps, et nous le devons à la communauté française qui fait qu'on travaille là-dessus. Mmh. C'est sûr que le Quidam, il ne choisit pas les thèmes de recherche. Il délègue en payant des impôts à des structures, à l'Agence nationale pour la recherche, etc., de mettre l'argent là où il faut. Donc cet argent est reventilé sur différents laboratoires en fonction, et c'est reventilé sur des formes de projets. Par contre, ça demande d'avoir des projets relativement avals et pas trop théoriques. Et donc, à mon goût, il manque une partie de financement direct des laboratoires qui ne passe pas par ces projets, qui permettent d'explorer des voies où il n'y a pas d'industriel derrière. Donc il y a cette difficulté qu'on a, c'est d'avoir des sous pour des choses qui, a priori, servent à rien, parce qu'elles sont très amont. Donc le Mans Sonore, c'est de l'argent qui nous a été donné à ELMAC, avec comme contrat de créer une biennale Et pour moi, c'est essentiel qu'on la fasse. C'est essentiel qu'on remontre au quidam ce qu'on fait de ses sous.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup.
Je vous en prie, ça fait un plaisir de raconter mes affaires.
La tentation des pieuvres, c'était le concert gastronomique qu'il y avait hier au Quinconce. Il y a une autre séance donc ce soir à 20h et on vous propose tout de suite une petite review.
C'est vrai que c'est la première fois et ça m'a surpris au départ, quoi.
Vous saviez à quoi vous attendre en
fait ? Pas du tout. Ni en termes de repas, ni en termes de spectacle.
Moi, je suis un peu dedans. Je trouve que c'est un super spectacle parce que le public commence à voir une personne qui fait la cuisine, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Donc il n'y a pas une réflexion et une écoute comme sur un texte de théâtre. Et du coup, il y a une perception de la musique qui est aidée aussi par le dispositif atypique. Et du coup, les gens sont portés, quoi.
Extraordinaire, je veux dire, c'était des conditions inhabituelles. Et c'est très intéressant et à refaire.
Qui part au final d'une cuisine, de quelque chose de très très ordinaire, d'un plat super ordinaire pour créer quelque chose d'ultra contemporain. Bah, moi, je trouve que c'est à la fois quelque chose de très contemporain et en même temps de très extrêmement accessible, en tout cas extrêmement proche des gens, et que c'est un bon moment de convivialité.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un mélange, un spectacle qui est mélange musique contemporaine et repas culinaires ?
En fait, l'idée m'est venue il y a longtemps parce que je suis née dans un restaurant, le restaurant de mes grands-parents, qui était un restaurant populaire dans l'arrière-pays de Montpellier. Et donc, j'ai beaucoup traîné là-bas. Pour le dire, je me suis ennuyée et aussi j'ai évidemment appris à manger et j'ai été toujours impressionnée par les ressources musicales et les ressources chorégraphiques du restaurant, c'est-à-dire ce qu'on entend en cuisine et ce qu'on voit en salle, ce qui se passe en salle. Et voilà, donc j'ai eu cette idée depuis longtemps et le fait d'avoir rencontré Claudius et toute l'équipe là m'a permis de faire advenir cette chose que je trouve très joyeuse et très profonde à la fois. Voilà.
Merci encore en tout cas, super spectacle.
Et fais venir tes copains, hein, on les invite. Hein.
Pour rappel, La Tentation des Pieuvres se joue ce soir à 20h au Petit Théâtre des Quinconces. N'hésitez pas, il reste encore de la place.
Surtout, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à dimanche pour pouvoir admirer l'installation A Tape End de Marc Parazon, qui est située à l'École supérieure d'art et de design du Mans. Et d'ailleurs, Thomas l'a rencontré.
Moi, j'ai un parcours un peu chaotique. Va de l'enseignement de l'anglais. Je suis passé par les Beaux-Arts de Lyon. Je suis ensuite passé par une école technique qui s'appelle Louis Lumière en son. Et je suis preneur de son dans le cinéma, documentaire, expérimental, de fiction, enfin, plein de choses différentes, films d'artistes, etc. Et par ailleurs, j'ai une pratique de musicien plutôt expérimental depuis l'adolescence, à peu près, qui est parti du rock, du noise rock, en tant que guitariste. Et puis j'ai assez vite dévié vers des choses plus radicales, on va dire, mais qui pourraient s'affilier à la musique concrète de Pierre Schaeffer. J'avais fait un parcours de composition électroacoustique dans une ENM, mais que j'ai pas terminé, et puis que j'ai repris un peu plus tard. J'ai un parcours, j'ai un DEM, diplôme d'études musicales en composition électroacoustique. Et concernant le Tape End, c'est donc une installation sonore et plastique qui est constituée d'une dizaine de magnétophones à bande, type Revox, et de la bande magnétique qui est déployée dans l'espace. C'est-à-dire que je ne fais pas lire la bande de manière traditionnelle par le magnéto, mais je la déploie dans l'espace à l'aide d'un système de roulettes et de poulies. Je déploie, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres de bande magnétique qui défile sous les yeux du spectateur dans l'espace et sur lequel j'enregistre du son et qui est donc ensuite entendu par le spectateur. Et donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de CD, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a que de la bande magnétique qui est en train de défiler sous nos yeux et qui nous permet d'entendre le son qu'on est en train d'écouter. Et c'est venu de ma pratique de musicien expérimental et électroacoustique où s'est posé la question comment faire du live en musique électronique, sur comment prendre du plaisir à faire de la musique en direct, en concert, sans avoir recours à l'ordinateur, parce que je trouve ça ennuyeux et comme performeur et comme auditeur, de voir quelqu'un qui est derrière son ordinateur où il va y avoir une pomme ou une fenêtre qui est affichée. Le subterfuge que j'avais trouvé, c'était d'utiliser des magnétophones cassettes, donc avec de la bande magnétique. Et sur ces magnétophones cassettes, il y avait ce qu'on appelle du circuit bending qui avait été fait. C'est-à-dire qu'il y avait des ajouts de boutons qui permettaient de ralentir, d'accélérer, de muter, enfin de couper le son de la bande. En rajoutant à ça des boîtiers d'effets, de reverb, de samples. Ouais, je me suis fabriqué un petit instrumentarium à base de lecteurs de cassettes. Et dans le fait que, comme j'utilise une dizaine de magnétos, il y a un haut-parleur ou deux par magnétophone, ce qui me permet de spatialiser le son complètement dans l'espace, sachant que chaque magnétophone a son haut-parleur qui lui est dédié. Donc je peux décider à tel moment de mettre tel type de son sur ce magnétophone, donc qui serait diffusé sur ce haut-parleur, puis un autre type de son sur un haut-parleur qui est à l'opposé dans la pièce et qui vont entrer en résonance ou se parler les uns les autres.
Et pour finir, on écoute notre petit coup de cœur avec François Bayle, Tremblement de terre très doux.